16. Les beaux inconnus. Et que près de lui, il voyait la fée vêtue d'un manteau, nu-pied dans sa chemise, exactement comme elle était lorsqu'il l'avait vue s'approcher du lit, dans la grande salle où elle l'avait retenue. Renaud de Beaujeu. La brise souffla les arcades et les dômes duvetés des nuages, qui s'agglomérèrent en écroulements moelleux, avant de s'effilocher en fumée. L'âme d'Ivorin de Kéan en redescendit, encore grisée d'azur, tandis que pages et écuyers se précipitaient vers les combattants épuisés. Alors que les suivants approchaient, le mystérieux chevalier au pie continuait à vaguer autour des jouteurs, l'épée rengainée, le bouclier glissé sur le dos. Il faisait marcher son destrier à une allure de passage. La splendide monture rebondissait en un lent pas de danse presque suspendu, qui faisait onduler son caparaçon tel une bannière. Ivorin admira la grâce équestre de l'inconnu. Celui-ci s'en rendit compte. Il tourna brièvement le haume en direction du bachelier, toujours installé sur le corps inerte du grand bâtard.
« Quelle douteuse couvée !»
plaisanta le chevalier au pie.
« Hé ! Bien mal assis ne profite jamais !»
Ivorin se sentit un peu piqué par le trait, mais reconnut qu'il était mérité. Quoiqu'il n'eût guère d'estime pour son captif, il se fut déshonoré à le traiter sans dignité. Sans compter qu'il eût été stupide de l'étouffer. C'était un coup à perdre tout à la fois sa réputation et une belle rançon. Le chevalier de Kéan se releva donc en grimaçant de douleur, mais se sentait déjà plus ferme sur ses jambes. Il se pencha sur sa prise avec une sollicitude intéressée. Il lui fut impossible de relever le mésaille fossé de Fitzganlon. En se penchant sur le ventail, il crut entendre un souffle irrégulier. Mais il entreprit malgré tout d'ôter le haume pour s'en assurer. Il rencontra quelques difficultés, tant le casque avait été déformé par les chocs. Le grand bâtard grogna quand le métal lui écorcha une oreille. Ivorin s'en réjouit. L'adversaire était en vie.
« Sire Domnal, jubila-t-il, vous êtes mon prisonnier. »
Fitzganlon, qui respirait mieux à l'air libre, lui adressa un coup d'œil glauque.
« Putain de merde !» marmonna-t-il.
De son côté, le chevalier au pie quittait le pré au petit trot.
« Partagez-vous mes trophées ? » lança-t-il au vainqueur. « L'exploit est vôtre. Je n'ai presque rien fait. »
Bien qu'il parlât un léonien fluide, il possédait une pointe d'accent indéfinissable, à la fois chantant et désuet. Mais Ivorin n'y accorda guère d'attention. Les servants du parti victorieux arrivaient. Le bachelier fut heureux de retrouver son écuyer Bribras qui rayonnait de joie. Les félicitations enthousiastes prodiguées par son valet d'armes gonflèrent un peu plus sa fierté. Cette prouesse les sortait tous deux d'un très mauvais pas, et Bribras n'en mit que plus de chaleur dans ses louanges. L'euphorie dans laquelle baignait le chevalier de Kéan lui inspira alors une idée aussi impulsive que généreuse, qui lui parut brillante sur le moment. Fitzganlon revenait à lui. En grognant, il venait de se remettre sur son séant, à même le sol labouré par les fers des chevaux. Ivorin se pencha vers lui et lui posa une main conciliante sur l'épaule. « Sire Domnal, lui dit-il, ce fut un beau combat. Et malgré nos différends, il appelle une estime réciproque. C'est pourquoi je vous propose un arrangement amiable. » « Engagez-vous à rompre vos fiançailles, et je vous relâche sur le champ. »
Du coin de l'œil, le chevalier de Kéan vit Bribras tiquer.
L'écuyer avait mesuré avant lui ce que signifiait pareille proposition. S'il libérait son prisonnier sans contrepartie, le bachelier retombait sous la suggestion de Blancandin ou du sire de Vaumacel. Le retour inattendu du chevalier aux épines ayant ajouté de la confusion à sa situation. Ivorin s'en voulut un peu de son étourderie, mais les choses étaient dites, et il ne pouvait revenir sur sa parole.
libérer la sublime Héloïse avait du reste infiniment plus d'importance que son propre sort. Il ne lui resterait qu'à faire d'autres prises au cours du tournoi du lendemain. Quant au bâtard, il lorgnait le bachelier par-dessous en soufflant pesamment. À l'incrédulité qui s'était peinte sur ses traits grossiers, succéda rapidement un sourire moqueur. « Pauvre buse !» finit-il par ricaner. « Tu crois vraiment que le prix de ma gueule suffit à acheter le cul de la prangerée ? Sans parler de la dot. Je paierai ma rançon et je garde la fille. Pendant la nuit de noces, elle me remboursera avec les intérêts. » Outré, Ivorin leva sa main gantelée pour châtier cette insolence. Fort heureusement, Bribras lui saisit le poignet avant qu'il ne frappât son prisonnier. « Cette discourtoisie vous coûtera plus cher que la capture !» siffla le chevalier de Kéan. « Mon père et les usuriers de Carwell allongeront la monnaie !» se vanta Fitzganlon d'un air désinvolte. Non loin de là, d'autres litiges éclataient entre les vainqueurs et les vaincus. Blancandin dut retenir Gérian de Froec, qui était prêt à rosser le chevalier de Lontieu pour le coup de faux renvoyé au sire de Thèves. Bruin de Bangarde, quant à lui, avait une querelle assez vive avec le chevalier de Vaumacel, contestant la victoire de chevaliers non déclarés sur le pré. Fort heureusement, les bonnes manières des deux preux les empêchèrent d'en revenir aux mains. Ils finirent par tomber d'accord pour s'en remettre au jugement des rois d'armes. L'arrivée des mires chirurgiens barbiers et guérisseurs de la déesse douce contribua aussi à apaiser les éclats. Assistés de pages et d'écuyers, les soigneurs délivrèrent les chevaliers les plus gravement blessés de leurs armures pour comprimer les hémorragies et réduire quelques fractures. Les plaies moins graves seraient traitées au camp. La bonne fortune voulut que même les combattants les plus rudement touchés, comme Cohir de Thèves et Ollier de L'Aulnay, étaient toujours en vie et conscients. Les silhouettes ténébreuses de trois prêtres du desséché demeurèrent en marge du champ. Les dessicatoriens se tenaient prêts au cas où l'on eût un mort à déplorer, mais la survie de tous les tournoyeurs rendait leurs secours inutiles. Dès qu'il eut calmé Gérian de Froec, Blancandin l'entraîna à sa suite pour saluer le chevalier de Vaumacel. Essayant de dominer la colère qui venait de gâcher sa joie, Ivorin se joignit à eux.
« Quelle heureuse surprise !» se réjouit le prince. « C'est ce qui s'appelle arriver à point !»
J'ai imploré le resplendissant pour qu'il me permette d'honorer mes promesses, répondit le chevalier aux épines. Hélas, je regrette d'avoir beaucoup tardé en chemin. Je suis bien fâché de n'avoir point assisté à votre adoubement.
J'aurais mauvaise grâce à vous en tenir rigueur, reconnut Blancandin. Après tout, vous n'avez pas tout raté. Vous en aurez même eu la meilleure part.
Et puis, donnant libre cours à sa joie, le chevalier fraîchement adoubé se laissa aller à un rire qui fit ressortir sa jeunesse.
« Dire que nous avons tous cru que vous nous abandonniez !» s'écria-t-il. « C'est à nous de vous présenter des excuses. Tenez, je vous rends Kéan. Lui non plus n'a pas démérité. Je me souviendrai de la façon dont il m'a épaulé. »
Le chevalier de Kéan avait quant à lui oublié tous les doutes et les griefs qu'il avait nourris contre le sire de Vaumacel. L'euphorie de la victoire le gagnait à nouveau et suffisait à repeindre sous un nouveau jour la période d'incertitude qu'il venait de traverser. Du reste, bien qu'il eût préféré que Fitzganlon acceptât sa proposition, le bachelier faisait contre mauvaise fortune bon cœur, et en définitive n'était pas mécontent de s'acquitter de sa dette à l'égard du chevalier aux épines. « Je n'ai jamais craint que vous me fassiez défaut, » déclara-t-il avec une fougue plus enthousiaste que sincère. « Je vous prie d'accepter le seigneur Douchin en échange de ma liberté. »«
J'y gagnerai probablement en or ce que j'y perdrai en courtoisie, » répondit Edan.
« À propos de courtoisie, » reprit Blancandin, « nous compterez-vous ce qui vous a retenu si longtemps loin de l'Indinas ?
Je n'y manquerai point, mais peut-être serait-il plus indiqué de le faire ailleurs que sur le pré. »
Quel est donc ce preux qui vous a si efficacement secondé ?
Intervint Gérian de Froec.
« Je ne connais pas son blason. »
Je crois que pour l'heure, il ne désire point révéler son nom et son lignage, répondit le sire de Vaumacel. J'ai noué avec lui et ses deux compagnons une forme d'alliance. Quoi qu'il soit étranger au duché, nous avons une allégeance en commun.
Et avez-vous mené à terme votre autre quête, celle qui a failli nous priver de votre assistance ?
Sentit le prince. J'ai effectivement trouvé les gens que je cherchais.
Le chevalier de Vaumacel s'interrompit, l'air préoccupé, et désigna de la main la braconnière et le cuissard d'Ivorin, où coulaient des filets de sang vermeil.
« Je tâcherai de satisfaire votre curiosité en temps utile, » reprit-il, « mais il me semble plus urgent de faire soigner cette blessure. »
Le bachelier protesta que ce n'était qu'une égratignure. Il se fit néanmoins rabrouer par le prince et le seigneur de Froec, qui appela à grands cris des barbiers. L'incident interrompit la conversation, d'autant qu'il fallait également veiller à récupérer les chevaux et prendre en charge les prisonniers. Blancandin retint néanmoins le chevalier de Vaumacel pour lui glisser quelques mots.
« Restez sur vos gardes, » chuchota-t-il. « Votre retour inopiné et la victoire que vous m'avez offerte vont faire sensation. Mon père voudra s'en prendre à vous. »
Une cohue houleuse escorta les vainqueurs et leurs prisonniers dans le camp du dedans. On trouvait peu de seigneurs dans cette affluence, mais quantité de sergents, de valets d'armes et de pages. Les acclamations s'y mêlaient aux injures et aux huées. Dans le parti du dehors, on blâmait le renfort tardif des chevaliers aux pies et aux épines, que l'on considérait comme une manœuvre déloyale. Quelques écuyers en vinrent aux mains, et la foule tout entière grondait d'une excitation orageuse. La presse se relâcha un peu autour des tournoyeurs lorsqu'ils eurent passé les barrières. Cohuir de Thèves étant le plus gravement blessé dans la troupe du prince, Blancandin proposa que le conroi s'assemblât sous la tente de leur malheureux compagnon. Ainsi pourrait-il, malgré tout, se réjouir et délibérer avec ses frères d'armes. Il fallut au préalable que les chevaliers se fissent désarmer et soigner. Et ils ne se retrouvèrent donc que progressivement sous le pavillon de Thèves. Bien qu'il eût plusieurs côtes cassées et une hanche luxée, Gowir tint à recevoir ses hôtes assis plutôt que couchés. L'arrivée de chaque chevalier, désormais débarrassé de l'armure et apprêté pour la cour, était l'occasion d'accolades et d'embrassades comme si on ne s'était vu de plusieurs mois. Avec de grands éclats de voix, on célébrait les prouesses du matin. On renchérissait dans les louanges et les protestations d'amitié. Toutes ces démonstrations de joie n'étaient cependant pas exemptes de fébrilité. On attendait encore la sentence des rois d'armes sur l'issue du combat, et il subsistait un certain flou sur l'attribution de quelques prisonniers. Lorsqu'ils furent 7 chevaliers rassemblés sous la tente, la plupart continuèrent à bavarder et à se congratuler, attendant le 8e pour aborder les questions sérieuses. Vichard de Laudunet, captif dans le camp du dehors, ne pourrait être des leurs. Mais il guettait l'arrivée du chevalier Opi avec une grande impatience, curieux de découvrir l'identité de cet allié providentiel. Le sire de Vaumacel se résolut à décevoir leurs attentes.
« Mes seigneurs, leur dit-il, il est inutile de différer davantage notre conseil. Le preux qui nous a appuyés ne se joindra pas à nous.
« Pour quelle raison ? S'étonna Dame de Maubrunas.
« Ne trouverait-il point d'agrément à recevoir nos remerciements ?»«
Oh, certainement, » répondit Adam. « Encore qu'il soit d'humeur changeante, et que ce qui l'émeut un jour aux larmes l'indiffère le lendemain. Mais sa principale raison est qu'il tient à garder secret son nom et son lignage.
« Allons, allons, point de mystère entre nous !»
s'écria le chevalier du Havre.
« Nous avons tous deviné qu'il s'agit de Monseigneur Méléagan. »
« J'espère que c'est ce que croiront les rois d'armes, » intervint Blancandin. « Mais je suis au regret de vous détromper, sire Fitzurs. Ce chevalier a peut-être la vaillance de mon frère, mais il n'en a pas la voix. »«
Dans ce cas, de qui peut-il bien s'agir ?»
s'interrogea Dame de Maubrunas.
« Sire Edan, pouvez-vous au moins nous dire si nous le connaissons ?»
Le sire de Vaumacel ébaucha un signe de dénégation.
J'ai scrupule à vous apporter pareille précision,
se justifia-t-il.
Je me suis engagé à ne pas dévoiler l'identité de ces 3 chevaliers sans leur consentement. Si je réponds à votre question, je manquerai en partie à ma parole.
3 chevaliers ?
releva le sire de Froek.
Vous en avez recruté d'autres de la même eau ?
Disons plutôt qu'ils viennent combattre pour le plaisir. Mais ils arboreront bien des brins d'immortels. Du moins est-ce ce que j'espère.
Ont-ils un rapport avec la quête que vous suiviez pour le seigneur du trèfle ?
Ne put s'empêcher de demander le sire de Maubrenas. Sur ce point aussi, permettez-moi de garder le silence.
Et vous avez raison, intervint le sire de Thèves. Non seulement votre discrétion vous honore, sire Edan, mais elle nous est utile. Je suis hors de combat, et vous êtes tous plus ou moins blessés. Le renfort de ces chevaliers inconnus forme une relève précieuse pour le parti de la duchesse. Il serait fâcheux de les incommoder par une curiosité importune.
Les autres preux tombèrent d'accord avec l'opinion de Cowyr de Thèves et l'approuvèrent d'abondance.
« Quel qu'il soit, ce chevalier au pis est de bonne noblesse, » renchérit Gérian de Froek,
« à en juger par la largesse avec laquelle il nous a abandonné ses prises. » Ce commentaire suscita de nouvelles approbations, mais ouvrit également un débat plus délicat, car le beau geste du mystérieux chevalier pouvait jeter une pomme de discorde dans le conroi de Blancandin. Tombé par surprise sur les chevaliers du dehors, l'inconnu avait contribué à estourbir pas moins de 4 adversaires. Si personne ne contesta à Ivorin la capture du grand bâtard, qu'il devait pourtant au secours de l'oiseleur anonyme, en revanche, les 2 Herluin et Ramier de Contremont avaient été sans conteste abattus par l'énigmatique champion. Restait à se les répartir, ce qui n'allait pas sans risque de froisser les susceptibilités et de piquer les jalousies. Des 9 champions du dehors, seul Urféan de Cacvel avait échappé au vainqueur. Par une douloureuse ironie, la blessure que lui avait infligée Ivorin avait préservé sa liberté en le poussant à quitter le pré avant la fin des combats. Parmi les 8 captifs, Ollier de L'Aulnay revint sans discussion à Cowyr de Thèves, qui, bien que n'ayant pas eu le temps de le prendre dans les formes, l'avait rapidement désarçonné et empêché de nuire. Quant à Blancandin, il pouvait revendiquer la prise de Bérard d'Estriff et celle d'Ouacre de Lointieu, grâce à la charge folle menée sur le fougueux Bastétal. L'action n'avait pas été très orthodoxe, mais les compagnons du prince ne l'en louèrent pas moins. Gagner 2 prisonniers en faisant ses premières armes ne représentait pas un mince exploit. La possession de Bruin de Bangarde était un sujet plus litigieux. Si le preux Froisfer avait fini par plier sous les coups du chevalier de Vaumacel, il était également engagé contre Gérian de Froek au moment de sa défaite. En outre, le sire de Froek l'avait plus longtemps affronté que le sire de Vaumacel et pouvait légitimement le revendiquer comme prisonnier. Edan trancha la question d'élégante manière. Puisqu'Ivorin rachetait sa liberté en lui cédant le grand bâtard, il laissa Froisfer au sire de Froek. Restaient pendant les droits sur Herluin de Prémerin, Herluin d'Alogne et Ramier de Contremont. 2 des compagnons de Blancandin n'avaient fait aucune prise. Fitzurse du Havne, qui avait abandonné un cheval pour rentrer dans le rang, et Dame de Maubrenas, qui s'était surtout préoccupé de maintenir la cohésion du conroi. S'il fut assez facilement convenu qu'ils se partageraient Herluin le jeune et Herluin l'aîné, en revanche, ils se disputèrent l'attribution de l'orgueilleux de Contremont. Le chevalier de Maubrenas se targuait d'avoir donné les ordres qui avaient permis à la compagnie de tenir la dragée haute à un adversaire plus nombreux, au nom de quoi il estimait légitime d'obtenir une autre prise. Il n'échappait toutefois à personne que la déchéance de la duchesse Odéarde, en provoquant sa disgrâce, l'avait rendu impécunieux. Une 2e rançon lui aurait permis de renflouer sa cassette. Le chevalier du Havne ne l'entendait cependant pas de cette oreille. Il taquinait Dame en s'émerveillant de l'avoir vu plus occupé à recevoir des coups qu'à en donner. En termes de vaillance, il estimait donc plus juste que la 2e rançon lui revînt. Bien qu'ils fissent toujours assaut de compliments, le ton montait entre les 2 chevaliers. Blancandin finit par intervenir dans la querelle. Il proposa d'échanger le chevalier de Contremont contre leur malheureux compagnon Vichard de Laudunet. Cette solution ne satisfaisait pas vraiment les 2 chicaneurs. Mais il aurait été discourtois de la contester. En définitive, tout le monde y trouvait son compte, et le prince, quoique moins fieffé que la plupart de ses chevaliers, maintenait sa prééminence en gagnant deux prisonniers. On finit par se féliciter de l'excellence de ce partage. Cohir de Thèves salua le jugement de Blancandin, où selon lui transparaissait le don naturel pour le commandement de la lignée ducale. Bien que la flatterie fût un peu outrée, le prince la reçut avec grâce et tous d'approuver avec élan. Fitzurse du Havre et Dame de Maubernas participèrent au cœur tout en évitant de se regarder. À l'extérieur, un regain d'animation signala l'entrée de nouveaux arrivants dans le camp. Plusieurs chevaliers envoyèrent leurs écuyers au renseignement. On était anxieux d'attendre le verdict des rois d'armes. S'il était peu concevable que les captures fussent contestées, une remise en question de la régularité du combat compliquerait le versement des rançons et serait sûrement invoquée par Ganelon pour rompre sa parole. Kael eut à peine le temps de se glisser derrière le chevalier de Vaumacel pour lui annoncer l'arrivée de Claudas de Kimark. Les rabats de la tente furent soulevés devant le fils du comte, qui entra en coup de vent. L'homme avait de la prestance, et sa carrure ne le cédait en rien aux preux les plus aguerris du conroi. Son irruption fit forte impression. Il n'eut que quelques pas à faire pour rejoindre Blancandin qu'il gratifia d'une accolade virile. Entre les fortes mains du seigneur de Kimark, les épaules du jeune Bromel parurent chétives.
« Quel combat, quelle prouesse !» s'enthousiasma le puissant Claudas. « Que d'émotions vous nous avez données ! Ah, cousin, je vous ai cru perdu à plus d'une reprise. Votre victoire n'en est que plus glorieuse. »
Se tournant vers le chevalier aux épines, le fils d'Anguzel ajouta
« Vous avez renversé la situation selon votre habitude, Vaumacel. Que n'ai-je point été des vôtres ce matin ? La seule chose qui me console, c'est d'avoir été en compagnie du duc quand vous êtes entré sur le pré. Vous auriez vu sa tête, c'était d'un drôle !»
Blancandin remercia rapidement Claudas pour ses compliments, puis le pressa de leur apprendre la vie donnée par les rois d'armes.
Le débat a été assez vif, selon que les héros dépendaient de Bromel ou de Kimark,
rapporta le fils du comte.
Le duc estime qu'il y a eu fourberie et a tenté d'en persuader les rois d'armes. Monseigneur, mon père, soutenait bien sûr le contraire. En définitive, les juges ont rappelé qu'il était licite de garder une réserve pour la faire entrer sur le pré après les premiers engagements. Quant à l'anonymat de votre compagnon, Edan, il n'est pas illégitime, même s'il pique fort les curiosités. Il est d'usage d'admettre sur la lice des chevaliers qui combattent sous des couleurs de fantaisie. Ce qui était plus gênant, c'est que ni vous ni ce chevalier au pis ne vous étiez déclaré avant les commensailles. Le duc a argué que la manœuvre était déloyale, car conçue pour créer un effet de surprise. Et il est difficile de le contredire sur ce point. Fort heureusement, le coup de faucre du chevalier de Lointieu vous a rendu service. Cette tricherie contrebalançait le caractère irrégulier de votre arrivée. Monseigneur mon père s'est aussi étonné que le chevalier de Maginois n'ait déclaré forfait que ce matin, et a plaint la mauvaise assiette du chevalier de Laudunay. Cela a eu le mérite de rappeler qu'il y avait quelques friponneries sous roche du côté bromalois.
De grâce, ne nous laissez pas sur des charbons ardents,
s'impatienta Dame de Maubernas.
En fin de compte, qu'ont conclu les rois d'armes?
Ils ont estimé qu'il y avait des irrégularités des deux côtés. Rassurez-vous cependant, ils ont également jugé que les torts s'équilibraient et que le combat restait équitable. Au grand déplaisir du duc et de sa cour, votre victoire est donc reconnue.
Ces mots provoquèrent de nouveaux transports chez les chevaliers du dedans. Leurs éclats de voix portèrent hors de la tente et égayèrent une partie du camp à la ronde. Claudas de Kimark invita le conroi à gagner le pavillon comtal, où son père allait donner un banquet pour fêter l'adoubement de Blancandin et sa victoire. Il poussa même la délicatesse jusqu'à faire préparer une litière, afin que Cohir de Thèves pût être transporté et participer aux réjouissances. Pour distinguer les héros du jour, il fut convenu qu'il ferait à cheval la brève distance qui séparait la tente de Thèves des quartiers du comte. Pendant qu'on harnachait les palefrois, Claudas frappait familièrement sur les épaules des preux valides et leur rendait grâce d'avoir eu le dessus, pour des raisons plus personnelles cette fois. Ainsi le grand pardon d'armes aurait lieu le lendemain, et le fils d'Anguzel se réjouissait par avance de charger dans la mêlée. Comme les hauts hommes montaient en selle,
Clodas leur montra quelque chose de la main. Au fond d'une allée traversant l'alignement coloré des tentes, on apercevait les jonchets et les eaux sombres de l'étang. Sur l'autre rive, mais à bonne distance du camp du dehors, une troupe de petits pages achevait de dresser quelques pavillons aux étoffes raffinées. Des palefrois splendides et de grands lévriers blancs vaguaient aux abords de ce nouveau campement.
« S'agit-il des quartiers du chevalier Opi ?»
demanda le fils du comte.
« Ces quartiers et ceux de ses compagnons, »
précisa le sire de Vaumacel.
« Ils font bande à part, » observa Clodas. « Pourtant votre ami a pris le parti du dedans. »
« Il m'a suivi pour m'obliger et pour le plaisir de combattre, »
répondit Edan.
« Mais il ne s'est pas formellement rangé sous la bannière de Madame la Duchesse. Ces chevaliers sont étrangers à nos vassalages. Ils semblent vouloir se joindre à nous demain. Mais je ne saurais en jurer.
Sont-ils tous aussi vaillants que celui qui vous a secondé ?»
Le deuxième est très irréfléchi, le troisième plus hautain. Mais je dirais que tous trois sont sensiblement de même force.
Dans ce cas, ce trio nous apportera un renfort appréciable. Quel dommage qu'ils restent sur leur camp à soi.
Ce n'est pas très courtois, crut bon d'ajouter le sire de Maubrenas.
Oh, n'ayez crainte, vous aurez de leurs nouvelles,
répliqua Edan.
Ce sont des gens fantasques, parfois liants, parfois distants, mais toujours de gracieuses manières. D'une façon ou d'une autre, ils se feront connaître.
Les avez-vous rencontrés quand vous serviez dans la principauté du Sacre?
Sans qui le seigneur de Kimark?
Pas du tout. À vrai dire, je ne les connais que depuis peu. Mais nous sommes tous liés à la même personne.
Il faudra que vous nous racontiez le fin mot de l'affaire.
Je m'y emploierai avec plaisir, dès lors qu'ils ne souhaiteront plus faire mystère de leur qualité.
Le cortège victorieux fut fêté par la noblesse de Kimark pendant le bref trajet menant au grand pavillon comtal. On acclamait les champions par leur nom, on se pressait autour des chevaux, on effleurait les combattants comme des porte-bonheur. Des demoiselles enjôleuses offrirent à Blancandin une couronne de fleurs que le jeune chevalier accepta en rougissant d'exquises manières. Une vague de vœux de guérison et de promesses d'offrande à la douce dame accompagnait la litière du chevalier de Thèves. Anguzel de Kimark, tout juste revenu du château, tint à accueillir en personne les vainqueurs sur le seuil de son pavillon. Il adressa à chacun un compliment, en commençant par Blancandin. L'honneur prodigué de la sorte se trouvait largement payé de retour par le prestige qu'il retirait à s'afficher avec les tournoyeurs victorieux.
« Quel bonheur de vous avoir chaussé les éperons !» lança-t-il au jeune Bromel. « Votre conduite de ce matin s'est parée de toutes les vertus de la chevalerie. »
Se tournant ensuite vers le chevalier de Vaumacel, il l'interpella.
« Eh bien, sire Edan, sur la brèche comme devant, mais la fin est plus heureuse qu'à Mortemark. »
Il salua donc par des flatteries et des bons mots chacun des champions, en terminant par le fils de Vavasseur qu'était Ivorin. S'il avait ainsi respecté la préséance, le comte de Kimark n'était pas moins un vieux renard. Il avait gardé le meilleur pour la fin. Il n'ignorait pas comment tirer bénéfice des serviteurs les plus modestes.
« Ah ! » s'écria-t-il. « Voici le preux le plus cher à mon cœur. Celui qui, en prenant le bâtard, m'a vengé de la perte d'Ouchin. Que le comte d'Odinel a été bien inspiré en vous offrant votre destrier. Je ne saurais faire moins. »
D'un geste négligent, il fit signe à des écuyers d'amener par la bride une puissante monture de guerre. Comme Ivorin regardait le coursier sans réaliser tout à fait ce qui lui arrivait, Anguzel ajouta avec une superbe satisfaite
« Il est à vous, chevalier de Kéan. Puisse-t-il vous faire bon usage dans la mêlée de demain ?»
Les remerciements d'Ivorin furent couverts par les acclamations et les applaudissements. Le comte de Kimark abrégea ses démonstrations flatteuses avec une simplicité de bon aloi. Après tout, cette largesse lui coûtait beaucoup moins cher que les rançons qu'il s'était exposé à verser, tout en lui permettant de capter une grande partie de l'enthousiasme de sa cour. À l'intérieur du pavillon, on continua d'honorer les vainqueurs du jour. Non seulement Blancandin retrouva sa place à la haute table auprès du comte, mais tous ses compagnons d'armes y furent également admis. Leur couleur avait été suspendue derrière leur siège, à même hauteur que les armoiries de Bromel et de Kimark. Claudas, en revanche, avait cédé sa place. On avait malicieusement disposé les dais destinés au duc Ganelon et à sa nouvelle épouse de part et d'autre de la cathèdre du comte. Les suzerains souperaient ainsi avec le fils rebelle et les champions qui les avaient défiés. La considération dont Anguzel flattait les vainqueurs était si éclatante que Cohir de Thèves, malgré ses blessures, tint à gagner le fauteuil qui lui était réservé. Blanc comme un linge, sa hanche démise le faisait visiblement souffrir le martyr. Mais sans doute eût-il préféré mourir que décliner pareille distinction. Il ne s'en enorgueillissait pas seulement par gloriole personnelle. Tout le monde comprit qu'en tant que chevalier de l'hôtel de la Duchesse, il représentait avec le sire de Maubrenas la suzeraine répudiée. Ivorin prit place en bout de table à côté du chevalier de Vaumacel. Encore transporté par la victoire, ébloui par le don qu'on lui avait fait et par la position dont on le distinguait, mais aussi rattrapé par l'épuisement, le bachelier restait quoi, rempli d'un émerveillement courbattu. Alors que les échansons servaient du clairet et de l'hypocrase, de nouveaux invités se présentèrent à l'entrée. Mêlés aux vassaux d'Anguzel, les prisonniers arrivaient. Le tournoi étant avant tout une fête, ils étaient conviés au même titre que les vainqueurs. Ce fut Claudas qui se chargea de les accueillir, avec une politesse qui affûtait parfois quelques pointes. Il plaignit avec une compassion ironique le sire de L'Aulnay, qui s'était fait excuser en raison de ses blessures. Il accabla Ouacre de Lointieux de remerciements sarcastiques pour la tricherie qui avait si heureusement redressé le jugement des rois d'armes. En revanche, il se montra plus aimable avec des chevaliers comme Bruin de Bangarde ou l'Orgueilleux de Contremont. Le fils du comte prit surtout un visible plaisir à échanger des invectives avec Domnall Fitzganelon. Ces deux-là étalaient la complicité belliqueuse que nouent parfois de vieux ennemis. Les vaincus furent installés à des tables éloignées, en compagnie d'arrière-vassaux de Kimark. Le grand pavillon n'était pourtant qu'à moitié rempli. Le duc et sa cour se faisaient attendre. Pour meubler ce temps mort, le comte fit appeler ses baladins et jongleurs. Sur les tables un peu clairsemées, les conversations se reprirent à rouler à propos des prouesses du jour. Au bout d'un moment, un héraut annonça l'arrivée du connétable de Traval et de sa suite. La nouvelle produisit un effet contrasté sur l'assistance. En un brouhaha où se mêlaient la détente et l'excitation, car il semblait évident que le grand officier précédait son suzerain. Un arrow de Traval fit une entrée un peu raide et fort cérémonieuse. Il était escorté de 4 ou 5 chevaliers et écuyers, vêtus comme lui en costume de cour. Mais l'absence de dame frappa les esprits. Le connétable marcha en droite ligne vers le comte et lui adressa un salut assez sec. « Leurs altesses du calme ont chargé de vous transmettre leurs compliments, » conta Anguzel. Ainsi qu'au chevalier Blancandin, lança-t-il sur un ton sans chaleur. Bien que le combat n'ait pas été livré selon les règles, Monseigneur Ganelon respectera l'avis des rois d'armes et tiendra parole. Il relève donc le gant. La chevalerie du duché affrontera vos forces demain en champ clos. Comme il vous l'a dit, ce n'était nullement dans ses projets. C'est pourquoi il m'envoie vous présenter ses excuses. Il s'est retiré avec ses vassaux dans ses quartiers afin de préparer le pas d'armes. Pour cette raison, il n'aura pas le loisir de partager votre banquet. Toutefois, afin de donner plus de lustre à votre tournoi, il vous fait savoir qu'il rachète tous les prisonniers du dehors sur ses propres deniers. Il veut leur donner l'occasion de rétablir leur réputation au cours de la mêlée de demain. Leurs détenteurs ont sa parole qu'il les paiera contents à l'issue du tournoi. Du moins, ceux qui n'auront pas été capturés et qui n'auront pas eu à échanger leurs prisonniers pour recouvrer la liberté. Muni de cette assurance, Son Altesse Ducale vous serait obligé de lui restituer les captifs séance tenante. Ils ont leur place dans son conseil. Anguzel consulta Blancandin et ses chevaliers. Le prince esquissa un geste d'assentiment avec un rien de dédain. les preux de son conroi s'alignèrent sur sa position. Bien que Gérian de Froëc le fît avec quelque réticence, non sans envoyer un regard noir au sire de Lointieu.
Les chevaliers du dehors peuvent regagner leur camp s'ils le désirent, condescendit Anguzel. Mais je les invite bien sûr à partager le banquet que je vais offrir. Il serait dommage de priver les champions malheureux de cette petite consolation.
Comme je vous l'ai dit, rétorqua le connétable avec raideur, son Altesse ducale les attend en séance tenante. Le comte de Quimard y consentit du bout des lèvres, l'expression délicatement froissée. Les captifs quittèrent leur siège, plus ou moins vite selon l'état de leurs blessures, et rejoignirent le seigneur de Traval.
Faites savoir à mon père que Ramier de Contremont est exempt de rançon si le chevalier de l'eau du nez nous est rendu,
lui lança Blancandin. D'une brève inclinaison de tête, le connétable signifia qu'il transmettrait le message. Cependant, il ne donnait pas l'impression de vouloir partir.
« Un dernier mot, » lâcha-t-il sur un ton tranchant.
Tout en continuant à s'adresser au comte, il pointa un index désobligeant vers le chevalier aux épines.
« Son Altesse ducale exige qu'Edane de Vaumacel lui soit livré. Ce renégat s'est dérobé à la justice, il doit répondre de ses manquements devant son suzerain. »
Edane fit mine de répondre, mais fut interrompu par un geste autoritaire d'Anguzel.
« Le chevalier de Vaumacel est mon invité, » dit fermement le comte.
« Je me déshonorerai en satisfaisant à cette requête. »
« Mais vous êtes le vassal du duc, » rétorqua Anaro.
« Vous avez reçu vos terres de ses mains et votre justice est soumise à la sienne. En protégeant vos macelles, vous reniez votre hommage. »
« Voici de bien grands mots, » éluda le vieux loup avec un sourire de biais.
Le sire de vos macelles se leva, et tout en affrontant le connétable du regard, affirma avec conviction « Je suis revenu dans l'intention de répondre aux accusations qu'on a portées contre moi. Il me serait odieux de mettre Monseigneur Anguzel dans l'embarras. Je suis disposé à vous suivre, Sire Anaro, et à comparaître devant le duc Ganelon. »
« Et pourtant vous n'en ferez rien, Sire Edane, »
contesta tranquillement le comte, « du moins pas avant la fin de ce tournoi. » Il coula un sourire indéchiffrable au seigneur de Traval.
« Mon cher Anaro, il n'est nullement question de sédition, mais juste de savoir-vivre, » allégua-t-il. « Que vous apparteniez au dedans ou au dehors, je vous ai tous conviés à une fête. Il n'est pas convenable d'y tenir un jugement. Le chevalier de Vaumacel vient d'apporter la victoire à son conroi contre celui du duc. Si Ganelon le fait arrêter aujourd'hui, on le croira mauvais perdant. »
« Ce n'est nullement le cas. Je n'en doute pas un instant. Mais qui pourra empêcher le soupçon de fleurir ? Si l'on croit le duc capable de venger ses déconvenus personnels dans sa cour de justice, voilà qui risque de donner à réfléchir à tous ses vassaux. Sans compter que je vous offre un autre moyen d'en débattre, dès demain, sur le pré. »
Le connétable accueillit ces arguments avec un visage fermé.
« Nos subterfuges sont cousus de fil blanc, Anguzel, » asséna-t-il avec morgue. « Mais je ne me fatiguerai pas à ergoter sur le sujet. Apprenez juste deux choses. Ce refus déplaira à son Altesse ducale, et je me ferai un plaisir de relever votre gant. Cela me délassera de ces vains bavardages. »
« Si cela vous agrée, Sire Anaro,
nous nous délasserons ensemble. »
L'apostrophe à Edane. Le connétable le toisa.
« Il n'y a plus d'enjeu, » répliqua-t-il. « Vous me défiez un an trop tard. C'est d'autant plus inconséquent, Vaumacel, que si vous aviez honoré le combat judiciaire pendant le procès de Dame Odéarde, toutes les issues lui auraient été favorables. M'auriez-vous vaincu, vous la sauviez du déshonneur. Vous aurais-je vaincu, la supériorité de mon bras sur le vôtre aurait infirmé le bruit que vous aviez combattu au Pis à Godemas. Voilà qui aurait fragilisé l'accusation d'adultère. Mais vous nous avez manqué à tous, à commencer par cette dame et par vous-même. Quel prestige gagnerais-je désormais à me commettre contre un adversaire de votre espèce ?
Celui de réparer la déconvenue de ce jour, semble-t-il,
j'y aurai surtout le plaisir d'abaisser votre présomption. Pour ce motif, j'accepte. Et quand je vous aurai pris, je vous offrirai à son Altesse ducale. »
Edan salua en signe d'agrément, mais le seigneur de Traval se détourna de lui avec mépris. Quant à Fitz Ganelon, il s'était un peu approché de la haute table et il fixait Ivorin avec impertinence.
« Hé, Kéan !» le héla-t-il. « Est-ce qu'il faut porter un message à ma fiancée de ta part ?»
Le jeune chevalier tressaillit comme s'il avait été frappé. Se levant à demi d'un air menaçant, il se contenta de sommer « Je vous interdis de l'approcher !»«
Comme tu y vas !» ricana le bâtard. « C'est ma promise quand même, pas la tienne.
Tant que votre rançon ne m'a pas été versée, vous êtes mon prisonnier !» s'emporta Ivorin. « Vous me devez obéissance, et je vous interdis d'importuner Dame et Louise !»
Fitz Ganelon hocha la tête en affichant un sourire goguenard.
« Elle est bien bonne, celle-là » commenta-t-il. « Chez mes gens et mes soudoyers, ça va être une belle rigolade !»
Il se détourna pour rejoindre le connétable, mais comme travaillé par un scrupule, il s'arrêta au bout de quelques pas et se retourna à demi.
« Aucun regret, Kéan ?» insista-t-il. « On ne sait jamais, tu sais. Je peux tomber sur la petite Prangeret par hasard, des fois que je me trompe de tante. Ou que je la retrouve sur les genoux de Monseigneur mon père. Ce serait ballot de lui raconter que tu n'as rien à lui dire.
Si tu l'approches, Domnal, je te ferai ravaler chacun de ces mots avec une longueur d'acier.
« Ouais, ouais, » grimaça le bâtard. « On en causera demain. »
Une fois que Fitz Ganelon eut retrouvé les chevaliers du dehors, le connétable prit congé avec une sécheresse assez cavalière et tous quittèrent les lieux. Aussitôt s'éleva un tollé dans le pavillon comtal. De l'avis de bon nombre de seigneurs et de dames, le duc passait les bornes. Faire faux bond au banquet, pour une simple contrariété, manquait de flegme et de courtoisie. Fitzurse du Havne et Dame de Maubrenas se réjouissaient. Au moins le duc avait cédé sur la grande mêlée. Le pas de l'immortel aurait lieu, et le retentissement que ne manquerait pas d'avoir cette rencontre restaurerait l'honneur de la duchesse Odéarde. D'autres prud'hommes, quoique satisfaits du résultat, exprimaient aussi de la défiance. Claudas de Quimarc conseilla de préparer le combat du lendemain comme une bataille plus que comme un tournoi. Gérian de Froec recommanda de prendre garde aux stratagèmes et aux traîtrises. Quant au chevalier de Kéan, il était dans tous ses états. Il avait la certitude que Fitz Ganelon prendrait plaisir à transgresser l'interdit qu'on lui avait imposé, et qu'il irait tout droit menacer la sublime Éluise, voire pire encore. « Je ne peux rester les bras croisés, » finit-il par dire. « Je dois me rendre au camp du dehors. »
« Voilà une très mauvaise idée, » désapprouva Edan.
« Dame Éluise est en danger. Le bâtard n'est pas homme à tenir parole, mais tout à fait homme à se venger. »
« La belle est-elle sans protection au camp ?»«
Elle est dame de compagnie de sa tante, la baronne de Brégor. »
Le sire de Vaumacel se permit un sourire ironique.
« Croyez-moi, la baronne pèse bien plus que vous pour défendre la vertu de sa nièce. »
persifla-t-il.
« Mais Dame Erambourg est favorable à ce mariage !» se récria le bachelier. « Et aujourd'hui j'ai encore déçu ses attentes. Je redoute fort que Éluise n'en paie le prix. »
C'est à craindre, en effet, mais pas dans l'immédiat.
Fitz Ganelon était aujourd'hui le capitaine du conroi de Bromel. Le connétable va le ramener devant son père pour qu'il lui rende des comptes. Puis la cour du duc tiendra un conseil de guerre pour préparer le pas d'armes de demain. Le seigneur Douchin en sera une pièce essentielle. Fiez-vous à moi. Le bâtard sera trop pris pour commettre le méfait que vous redoutez. Ivorin accueillit ces propos rassurants avec un certain scepticisme. Son visage exprimait toujours la plus vive inquiétude. « Peut-être pourrais-je gagner le camp du dehors pour rendre une visite de courtoisie à la dame de Brégor ?» s'entêta-t-il. « Elle m'a facilement pardonné mon changement d'allégeance et s'est montrée disposée à intervenir en ma faveur quand j'en avais besoin. Maintenant que je suis tiré d'affaire, je pourrais retourner la voir pour lui exprimer ma gratitude. » J'en profiterai pour veiller sur Éluise.
si vous me permettez de parler sans détour. Vous seriez bien mal inspiré d'entreprendre pareille folie, répondit Edan. Hier, tout vous portait à croire que je vous ferais défaut. Aujourd'hui, avec mon ami Opi, je vous ai donné la victoire. Avez-vous oublié la haine dans laquelle me tient la baronne? Celle-là même qui vous a jeté dans toutes ces traverses. Après nous avoir vus triompher ensemble aujourd'hui, soyez assurés que ces sentiments pour vous ont changé du tout au tout. Vous présenter devant Dame Erambourg ce soir serait une grave imprudence. De telles civilités se révéleraient plus dangereuses pour la demoiselle de Prangeray que les grossièretés de Fitzgallon. Pendant que le chevalier de Kéan peinait à se rendre à ses arguments, de singuliers visiteurs venaient d'entrer dans le pavillon comtal. Menés par le ménestrel connu sous le nom d'Anoët, trois petits garçons s'avançaient entre les tables. Personne n'y accorda d'importance. Ces enfants joliment costumés avaient l'allure de pages. La noblesse était bien plus occupée à commenter l'attitude ombrageuse du duc et de ce qu'elle augurait pour le lendemain. L'elfe baladin guida les jolis valets jusque devant la haute table, puis, pour attirer l'attention, joua sur son luth un début suave de mélodie. Le charme du musicien et de son air accrocha les sensibilités. Le ménestrel s'interrompit avec un sourire espiègle, amusé de décevoir l'assemblée. Il s'inclina très bas, sans un mot, se contentant de désigner les enfants d'un geste gracieux comme il se retirait. Les trois petits pages saluèrent à leur tour dans un ensemble parfait. La déférence étudiée de si tendres menins amusa les convives. Certains les prirent pour un nouveau divertissement donné par la compagnie folle, tout en s'étonnant de ne pas avoir encore vu ces mignards-là dans la troupe de Butler. Ce qui était fort dommage, car les bambins étaient plus charmants que les drôles assez louches qui gravitaient autour des deux elfes de la bande. Leur livrée paraissait également beaucoup plus luxueuse que les déguisements endossés par la plupart des jongleurs. De fait, elle était même trop riche pour une condition si basse, et un brin étrange également. Leur pourpoint n'était pas à la mode, et pourtant frappait par leur raffinement. De délicates broderies donnaient l'impression qu'ils étaient entretissés de plumes. Les manches se trouvaient liées et non cousues. Chaque petit page avait l'entournure droite tenue par un cordonnet tressé de fil d'or, et la gauche attachée par des rubans multicolores noués en bouffettes. Certains de ces passements formaient une épaulette sous laquelle les enfants avaient glissé leur bonnet replié. Le garçon qui occupait le centre du trio prit la parole. « Est-ce devant le puissant comte de Kimark que nous avons eu l'honneur de nous incliner ?» demanda-t-il d'une voix fluette. La question amusa l'assistance, car elle avait été prononcée avec un gros accent de la vallée de Landoun qui sentait davantage la glèbe que le tinel. Mais il n'était pas rare qu'un fils de noble lignage récemment placé en pagerie dût commencer son éducation en décrottant sa langue. Car en dépit de son intonation paysanne, comment ne pas croire que ce mignon n'était pas de haute naissance? Il suffisait de le regarder pour être subjugué par sa beauté. Sous le front haut et rêveur, mousseux de cheveux d'ange, brillait un regard de clarté liquide. Les joues veloutées, le nez mutin et le petit menton possédaient la perfection que les sculpteurs prêtent parfois au visage de la déesse douce. Plus d'une dame fondit devant cette frimousse. Plus d'un chevalier se dit que pareil servant n'aurait pas déparé dans sa suite. Seul Anguzel resta de marbre, comme s'il se montrait insensible ou méfiant devant tant de joliesse. Il était du reste parfaitement identifiable au dais orné de ses armoiries. Et plusieurs nobles personnages, charmés par les petits pages, confirmèrent qu'il était le comte. Le bel enfant aux yeux outre-mer se fendit d'une nouvelle révérence, encore plus sophistiquée que la précédente. « Ô et puissant Seigneur, c'est un privilège d'être admis en votre présence, » récita-t-il avec son accent rustique. « Nous sommes les valets des aventureux du bois Oiselet. Nos maîtres nous ont demandé de vous porter un message avec leurs salutations. »
« Quel nom extravagant !» coupa Claudas de Kimark. Qu'est-ce donc que ce bois oiselé? Je n'ai jamais entendu parler de ce fief. »
Cette intervention surprit le ravissant émissaire. Un de ses compagnons, un petit page brun, moins joli que le blondin, mais dont le minois paraissait franc comme l'or, répondit à sa place. « Tel est le nom de leur terre? Nos maîtres viennent d'un pays très loin d'ici. »
« Et qui sont donc ces grands voyageurs ?»
s'enquit le fils du comte.
« Ce sont les aventureux du bois oiselé, »
reprit le chérubin magnifique avec une inflexion un peu outrée.
« Nous sommes justement venus vous les présenter. »
Mais l'enfant semblait avoir perdu le fil de ce qu'il avait à dire. Le gentil Brunet prit alors la relève en s'adressant à nouveau au comte. « Oh, et puissant seigneur, nos maîtres s'excusent de ne point vous saluer en personne et de ne point vous révéler leur nom. Ils sont tenus par le vœu qu'ils ont fait par loyauté à une très haute dame et doivent voyager incognito. C'est pourquoi ils ne se feront connaître que par les blasons qu'ils ont adoptés. Ce sont les chevaliers au jet, au pie et au coucou. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons planté leur tente hors des deux camps, » poursuivit l'enfant blond. « Mais nous sommes chargés de vous dire que tout le monde y est bienvenu. Nos maîtres se garderont juste de dévoiler leur visage. Cependant, ils accueilleront gracieusement les visiteurs. »
En raison de leur bonne intelligence avec le sire de Vaumacel, enchaîna le page brun, les chevaliers au pie et au coucou se joindront demain au camp du dedans. En revanche, par souci de gloire personnelle, le chevalier au jet préférera combattre dans le camp du dehors.
Pour vous remercier de votre attention et de votre discrétion, ô et puissant seigneur, les aventureux du bois oiselé nous ont également chargé de vous transmettre ce compliment,
ajouta l'angelot aux cheveux d'or.
Et, se tenant très droit, les trois petits pages chantèrent en chœur. Quelle merveilleuse prouesse! Voici des joutes en grand arroi qui s'étourdissent de largesse. Quelle merveilleuse prouesse, vaillance, beauté et noblesse, loue le comte pour son tournoi. Quelle merveilleuse prouesse, voici des joutes en grand arroi.
L'air de ce triolet, dissemblable aux mélodies à la mode, avait quelque chose de déroutant. Peut-être son étrangeté même le rendait-il troublant. Les voix de soprano lui conférait un charme redoutable qui acheva de conquérir l'assemblée. Les curieux, comme Claudas de Quimarque, en oublièrent de poser leurs questions à propos de la dame qui avait imposé le secret aux aventureux, ou à propos de leur lien avec le chevalier de Vaumacel. Au lieu de quoi, les tables se mirent à bourdonner d'éloges plus ou moins attendris sur la mignardise des jeunes émissaires. Anguzel gratifia les petits chanteurs d'un sourire de circonstance, mais il restait difficile de démêler s'il se montrait flatté ou s'il flattait le sentiment de sa cour.
« De leur mystère ou de leur belle manière, je ne sais ce qui m'émerveille le plus chez vos seigneurs, » observa-t-il. « Si ces chevaliers aventureux sont tenus par quelques serments, je leur pardonne volontiers de ne m'avoir point salué en personne, et je veux qu'on leur apporte nos mets les plus fins et nos meilleurs vins. Quant à vous, gentil page, je vous invite. Joignez-vous donc aux tables des sergents et des écuyers. »
Une expression gourmande se peignit sur les trois frimousses. Toutefois, les enfants se dandinèrent en échangeant quelques mots avant que le plus beau des trois ne reprît la parole à haute voix.
« On aimerait beaucoup accepter votre invitation, monseigneur, mais nous devons d'abord porter un autre message de la part de nos maîtres. Il est destiné au duc de Bromel. On croyait le trouver ici, mais il n'a pas l'air d'être arrivé. »
« Le duc boude mon banquet, »
fit mine de s'offusquer le comte.
« Il s'est retiré dans ses quartiers, où il a requis ses vassaux prétendument pour préparer la mêlée de demain. »
Les petits pages eurent l'air un peu dépités et se consultèrent à nouveau.
« Dans ce cas, nous devons prendre congé, » finit par dire le plus beau.
« Nos maîtres seraient courroucés d'apprendre que nous n'avons pas délivré tous leurs messages. »
Le duc de Bromel se trouve-t-il bien dans l'autre camp ?
En effet, mon garçon, je souhaite juste que vous soyez aussi bien reçu en sa présence qu'en la mienne. L'arrivée de votre seigneur au pie ne lui a pas fait bonne impression.
Les jolis émissaires se fendirent de nouveaux remerciements
et s'inclinèrent avant de se retirer. Au même moment, au bout de la haute table, le sire de Vaumacelle se penchait vers Ivorin et lui glissait à l'oreille.
« Je crois que je peux porter remède à vos soucis. »
Puis il fit signe à Kell d'approcher.
« Rattrape les enfants à l'entrée et demande à Milouin de venir me trouver. » ordonna-t-il.
Le page réprima un soupir, mais s'exécuta aussitôt. « Auriez-vous le moyen de soustraire la belle Éluise au bâtard ?» demanda Ivorin avec espoir.
« Je ne peux rien vous promettre, » répondit Edan. « Et je crains de n'avoir pas le pouvoir d'empêcher ce mariage qui vous afflige. Cependant, j'ai peut-être un procédé qui vous permettra de rencontrer la dame dès ce soir, sans la mettre en danger. »
« Ah, sire Edan, vous êtes le meilleur des amis. Mais comment allons-nous faire ?»«
Cela n'a rien de sorcier. Vous allez voir. »
L'un des trois petits pages revenait déjà, escorté de Kell, dont il avait l'air de se méfier. C'était le garçon brun à l'expression ingénue. « Vous m'avez fait appeler, sire Edan ?» demanda-t-il après avoir salué avec grâce.
« En effet, Milouin, j'ai une faveur à te demander. »
« Tout ce qu'il vous plaira, messire, si ça ne déplaît pas à mes seigneurs. »«
Cela ne leur déplaira point.
Il s'agit de rendre service à une dame.
Mais il convient d'agir vite, ou l'occasion sera manquée. Quand vous vous rendrez au camp du duc, tu chercheras une belle personne, la demoiselle... »
Edan se tourna vers Ivorin, qui s'empressa de compléter, « Éluise de Prangeret !»
« Tu l'inviteras au camp des aventureux du bois Oiselet, » poursuivit le chevalier de Vaumacelle. « Au besoin qu'elle s'y réclame de ma recommandation, pour être protégée des fâcheux qui pourraient l'importuner. Tu lui diras que le chevalier de Kéan la rejoindra là-bas. »
Le visage d'Ivorin s'illumina en entendant ces consignes. « Où trouverai-je cette demoiselle ?» demanda l'enfant. Edan interrogea son voisin du regard. Le jeune homme bredouilla éperdument. « Elle est dame de compagnie dans les quartiers de la baronne de Brigord. Mais si la baronne assiste la nouvelle duchesse, elle pourrait aussi se trouver dans le pavillon ducal. Il est également possible qu'elle rejoigne l'entourage de son père, le seigneur Ménard de Prangeret. »
« La demoiselle de Prangeret, dans le logis ducal, celui de Brigord ou de Prangeret, »
récapitula le sire de Vaumacelle.
« T'en souviendras-tu, Milouin ?»
Le petit page hocha la tête.